Chapitre 39. Didi était précisément en train de ranger ses affaires pour rentrer chez elle quand le téléphone sonna. Elle avait déjà raté le dîner avec Alex et Jack. En se dépêchant, elle pourrait encore être là pour l'heure du coucher. Donc, comme de bien entendu, le téléphone sonna. Sur son bureau, encore terriblement encombré de papiers, elle avait essayé de bûcher sa pile de rapports. Vraiment, elle avait fait de son mieux, mais le tas avait plutôt l'air de grandir à vue d'œil. Et s'il s'y trouvait l'information magique qui leur permettrait de résoudre l'affaire, elle lui avait pour l'instant échappé. Le téléphone sonnait toujours. D'après ce qui s'affichait à l'écran, un appel en provenance du service de médecine légale. Didi soupira, reposa sa sacoche et décrocha.
« Ça ne t'arrive jamais de rentrer chez toi ?»
lui demanda Ben Wheatley de sa voix râpeuse. « On dirait que non, mais tu peux parler. C'est toi qui m'appelles de la morgue. »«
Pas de la morgue. Du labo au-dessus de la morgue. »«
Tu chipotes. »«
J'ai des infos pour toi. »
Didi attendit. Elle s'en doutait. Ben n'était pas du genre à appeler pour papoter.
« J'ai un premier diagnostic concernant ton cadavre. »
Christy Kilker, la mère a reconnu le tatouage.
Les résultats officiels demanderont encore quelques jours, mais j'ai eu comme l'impression que tu étais pressée sur ce coup-là.
Un peu.
Alors, tout à fait officieusement.
Accouche.
Elle est morte d'une crise cardiaque.
Pardon ? Dit Didi en se rasseyant.
Malformation congénitale. Elle ne l'a probablement jamais su. Par ailleurs, son corps présente les symptômes classiques de la dénutrition. Rétrécissement de l'estomac, fonte musculaire, augmentation du volume du foie et de la rate. Le plus probable est que l'épreuve de cette malnutrition prolongée a fini par déclencher un infarctus massif.
Une crise cardiaque. Elle est morte d'une crise cardiaque.
Officieusement.
Elle n'a pas été assassinée.
Ses deux poignets présentent des marques qui font penser à des entraves. Il y a aussi des cicatrices antémortem sur ses bras, à l'arrière des cuisses, très probablement des coupures faites avec une lame fine. Peut-être même un scalpel.
Scarification.
Oui, rien de profond, mais...
Didi n'avait pas besoin que le légiste lui fasse un dessin. Elle savait comme lui que certains criminels aiment jouer avec la nourriture.
Entre ça et le degré de dénutrition,
continua Ben,
on pourrait défendre devant un tribunal l'idée que les agissements du criminel sont directement responsables du décès.
Mais il ne l'a pas fait exprès. Didi s'interrompit. Cette phrase était idiote, même à ses propres oreilles. À en juger par le silence de Ben, il en pensait autant. « Ce que je veux dire, reprit-elle en rassemblant ses idées, c'est que sa mort n'était pas préméditée. Si elle n'avait pas fait cette crise cardiaque...
Elle pourrait très bien être encore ligotée quelque part à crever de faim,
dit Ben, pince sans rire. Tu ne comprends pas. Nous avons encore trois disparus dans la nature. Donc, si Christy n'était pas censée mourir, peut-être que les autres non plus. Peut-être qu'elles sont encore ligotées quelque part à crever de faim. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la date du décès ? Didi passa rapidement en revue les dossiers empilés sur son bureau à la recherche de celui de Christy Kilker, étudiante, qui avait travaillé de nuit au hashtag dans la même rue que le Tonic, avant théoriquement de partir pour l'Italie. Quand sa mère avait-elle eu de ses nouvelles pour la dernière fois ? Il y a 5 mois, avait dit Phil. Et pourtant, sur les lieux, Ben estimait déjà que le cadavre était plus frais.
Il y a 6 à 8 semaines, je dirais.
Aussi récent que ça ?
Cette conversation est-elle enregistrée ?
Non.
Alors je reste sur 6 à 8 semaines.
D'accord. Les idées se bousculaient dans la tête de Didi. Christy avait disparu en juin, mais elle était très probablement encore vivante en septembre. Ce qui signifiait qu'elle avait été séquestrée quelque part, forcément, et pas chez Devon Golding, étant donné qu'on avait fouillé sa maison de fond en comble. Donc, il existait forcément une deuxième destination. Un endroit suffisamment vaste pour y enfermer plusieurs victimes, puisque Nathalie, Stacy et Flora restaient introuvables. Didi s'était efforcée d'identifier une deuxième personne, Quelqu'un qui aurait connu à la fois Golding et ses victimes et qui aurait enlevé Flora en réaction à la mort de Golding. Mais vu les résultats obtenus, peut-être aurait-elle plutôt dû se concentrer sur ce deuxième lieu. Après tout, combien d'endroits pouvait-il y avoir à Boston qui avaient été fréquentés par Devon Golding et qui étaient suffisamment grands et discrets pour y planquer au moins 4 femmes ?
C'est tout,
dit Ben Whitley dans son oreille.
Je n'en sais pas plus pour l'instant. Je rentre chez moi dormir un peu.
Didi hocha la tête contre l'appareil et raccrocha sans même dire au revoir. Elle n'allait pas rentrer chez elle. Elle n'allait pas dormir un peu. Elle reprit son téléphone et convoqua la cellule d'enquête. Nous avons une avancée significative dans le dossier. Une fois de plus, Didi se tenait devant le tableau blanc, un marqueur à la main. Autour de la table de réunion, des enquêteurs qui bâillaient, et au milieu de grandes pizzas. Pour faire travailler ses subordonnés à toute heure du jour et de la nuit, il fallait au moins les nourrir. Christy Kilker est morte d'une crise cardiaque, sans doute provoquée par les mauvais traitements subis pendant sa captivité. L'autopsie a révélé des signes de dénutrition prolongée et de torture à l'arme blanche. Date de la mort estimée, il y a 6 à 8 semaines.
Mais elle a disparu en juin,
rappela Phil. Exactement, ce qui signifie qu'elle est restée séquestrée quelque part pendant plusieurs mois. Autrement dit, nos autres disparus, ajouta Didi en montrant un à un les noms sur le tableau, pourraient encore être là-bas en vie. Il faut qu'on revoie nos théories sur le crime et sur le nombre de criminels. Imaginons un instant que Devon Golding soit impliqué. Il avait des liens directs avec 3 de nos 4 victimes et d'après les témoignages des amis de Stacy Summers, il est probable qu'il l'ait aussi rencontré 1 ou 2 fois au tonic.
Sa carrure correspondait à celle du type sur les images de l'enlèvement, souligna Neil.
Et il ne travaillait pas au tonic le soir où Stacy Summers a disparu du Burchies, ajouta Carol Manley. Donc il a très bien pu aller voir ce qui se passait chez le voisin. D'accord, dit Didi en tapotant de nouveau le tableau avec son marqueur. Nous avons Golding, suffisamment baraqué pour être notre kidnappeur. Il a au moins une agression connue à son actif, celle de Flora. Et il a certainement joué un rôle dans la mort de Christy, étant donné que c'est le GPS de sa voiture qui nous a conduit à son cadavre. Ajoutons qu'il possède des trophées des 2 premières victimes. Si on cumule tout ça, il me semble qu'on peut affirmer sans risque d'erreur qu'il a participé aux 3 premiers enlèvements. Autour de la table, ses enquêteurs approuvèrent. Mais on en arrive à, dit-elle en progressant sur la ligne chronologique qu'elle avait tracée sur le tableau, Flora Dane, qui a disparu de son appartement fermé à triple tour après le meurtre de Golding. Comment une telle chose est-elle possible? Qu'est-ce qui nous a échappé? Un deuxième kidnappeur? Proposa Carol. Un ami de Golding? Ou un émule? Ajouta-t-elle d'un air pensif. Didi hocha la tête. Les tueurs en réunion sont rares, mais ils existent. Mari et femme, 2 hommes, de la même famille, pas de la même famille. Les combinaisons sont infinies. Mais le trait commun, c'est qu'il y a toujours un dominant et un partenaire soumis. Donc, première question, lequel était Golding? Phil haussa un sourcil.
Un homme d'une 20aine d'années élevé aux stéroïdes? Golding était forcément le dominant.
Je ne pense pas. C'était de nouveau Carol qui venait de prendre la parole. Tous la regardaient avec étonnement, mais elle ne se démonta pas. Si Golding avait été le dominant, sa mort aurait mis fin à la série. Son partenaire se serait enfui ou effondré, n'est-ce pas? Alors que prendre Flora en embuscade dans son propre appartement pour la kidnapper, ça dénote une sacrée dose de confiance en soi. Et aussi une capacité de préméditation, de préparation et d'organisation. Ce n'est pas le comportement d'un soumis, c'est celui du génie du crime, du début à la fin. Cela fit vraiment de la peine à Didi de le reconnaître, mais je pense que Carol a raison. Tous les regards étaient maintenant braqués sur elle. Il y a des incohérences d'un crime à l'autre. Golding a gardé des trophées des 2 premières femmes, mais pas de Stacy Summers. Il y a du sang dans son garage. Ce qui suppose qu'il y aurait amené au moins une des victimes à un moment donné, mais elles sont forcément séquestrées ailleurs. D'autre part, il a conduit Flora à son garage plutôt que directement au deuxième lieu. Je dirais, mais là je sors un peu de mon domaine,
que le garage de Golding est son territoire, mais pas l'autre endroit, qui appartient à son partenaire. Donc une fois que les filles sont là-bas,
il en est dépossédé, termina Phil. Il les donne à quelqu'un d'autre. Le soumis remet la proie au dominant.
J'aimerais bien avoir des preuves, concéda Didi. Mais étant donné que Golding est mort, je me demande s'il a choisi lui-même les deux premières victimes. Ou peut-être seulement Nathalie, avec laquelle il avait manifestement une relation, si on en juge par la quantité de photos. Peut-être qu'il a accompli ce premier crime tout seul et de sa propre initiative, mais que ça a attiré l'attention de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait pimenter l'aventure. Hé, j'ai l'endroit rêvé pour les garder en captivité. Mais qui s'est aussi mis à prendre les décisions. D'où les accès de colère de plus en plus fréquents de Golding et son besoin de kidnapper Flora et de l'emmener d'abord chez lui. Parce que par la suite, il ne serait plus au centre du jeu. Autour de la table, ses collègues se regardaient sans parvenir à se forger une opinion. Didi ne pouvait pas les en blâmer. Ils étaient enquêteurs, pas profileurs. Et elle s'était vraiment aventurée au royaume des conjectures. On en arrive au fait suivant, commença Didi. C'est une femme, l'interrompit Carole. Le partenaire dominant, une femme. Parce que jamais un type bourré aux hormones et qui se prenait pour un étalon comme Golding n'aurait accepté de recevoir des ordres d'un autre homme. Mais une femme, plus âgée, sublime, manipulatrice, aurait pu le berner. Elle aurait commencé par faire semblant d'être à sa botte. Sauf qu'avant même qu'il s'en rende compte, elle aurait repris les rênes. Et puis, c'est chez elle que ça se passe. Encore un facteur favorisant une réaction de soumission classique chez lui, puisque femme et maîtresse en sa maison, tout ça. Didi était d'accord. Oui, c'est aussi mon avis. Si nous n'avons pas retrouvé Stacy Summers, c'est parce que tout le monde cherchait un Devon Golding, alors qu'en réalité Stacy est probablement aux mains d'une femme fatale au cœur de pierre. Quelqu'un qui vit dans une maison individuelle. Impossible de cacher quatre femmes dans un logement collectif. Quelque part dans Boston.
En ville ? S'étonna Phil.
Oui. Si la maison était à la campagne, pourquoi se débarrasser du corps de Christy dans le parc ? C'était une solution très risquée, à laquelle on ne se résoudrait qu'en l'absence d'autre choix. Ce qui signifie que nos criminels ont peut-être une maison qui convient pour leurs activités, mais pas de terrain. D'où leur petite excursion à Matapan.
Tu penses que la maison serait aussi à Matapan ? Demanda Phil.
Possible ? Si je devais cacher quatre femmes, je chercherais un lieu dans un quartier populaire où il y a tellement de maisons aux fenêtres bouchées par des planches que personne n'en remarquerait une de plus. Où mes voisins sont peu nombreux ou, mieux encore, plus portés sur la gâchette que sur la surveillance des activités anormales. Où il n'est pas si rare d'entendre des cris.
Ça ne limite pas vraiment les possibilités,
fit remarquer Neil avec ironie. D'après les statistiques, si les victimes sont blanches, le criminel a toutes les chances d'être blanc. Il s'agirait donc d'un quartier à dominante blanche. Ça ne les avançait pas beaucoup plus. Comme Boston avait de longue date accueilli une immigration venue d'Irlande, d'Italie et maintenant d'Europe de l'Est, on trouvait tout autant de quartiers pauvres blancs que d'autres couleurs. La diversité en marche. Ou juste la dure réalité. S'en sortir dans une nouvelle ville étrangère était difficile pour tout le monde. Je ne pense pas qu'on va réussir à découvrir l'endroit d'un coup de baguette magique en faisant du profilage géographique, dit Didi. Il faut qu'on se concentre sur les femmes que connaissait Devon Golding. Celles qu'il aurait rencontrées sur son lieu de travail, à la salle de sport, dans les bars. On cherche tous azimuts. Petit détail qui pimente l'affaire, il se trouve que Jacob Ness avait une fille. Donc, si on pouvait établir un lien entre une femme de l'entourage de Devon et l'ordure qui a enlevé Flora Dane la première fois, ce serait jeu, set et match. Autour de la table, ses enquêteurs la regardaient d'un air ébahi. Ce que je veux dire... Jacob Ness avait une fille ? Demanda Phil. Le FBI a retrouvé dans son camion de l'ADN qui pourrait être celui d'une fille. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme information. Littéralement. Une séquence ADN.
Mais elle pourrait être à Boston.
Ou en Floride, en Géorgie ou au Brésil, pour ce que j'en sais. Mais étant donné qu'on cherche une femme, c'est un paramètre à garder à l'esprit. Si cette fille entretenait une relation avec Jacob, ça fait au moins une femme susceptible d'avoir de l'expérience en matière d'enlèvement. Et de haïr Flora Dane. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais en quoi ça nous aide?
Cette fois-ci, la question venait de Carol Manley.
« Je ne sais pas », répondit Didi avec franchise. « Je me dis, commençons par établir la liste des femmes de l'entourage de Devon Golding. On pourrait contacter son opérateur mobile, regarder les numéros qu'il appelait souvent, auxquels il envoyait des textos, etc. Et ensuite, on pourrait faire les premières recherches sur les candidates possibles pour voir qui aurait le profil. Si on découvrait qu'un ou deux de ces numéros fréquents appartiennent, disons, à de belles femmes dans la trentaine et qui auraient peut-être même vécu dans le sud, on aurait du grain à moudre. Et si jamais une de ces femmes possédait une maison suffisamment vaste et isolée pour abriter plusieurs victimes de kidnapping, ça nous ferait une première cible. Neil leva la main.
J'ai une autre idée.
Didi l'observa.
Vas-y, je t'écoute.
Le GPS de Golding. On s'en est déjà servi une fois pour regarder la liste des destinations fréquentes en cherchant un lieu où il aurait pu dissimuler un cadavre. Et si on recommençait, mais en cherchant l'adresse qui correspondrait le mieux au type de maison qu'on a définie. Se faire donner la liste de ces numéros fréquents par l'opérateur mobile va prendre au moins 24 heures et les premières recherches sur son entourage encore une journée. Alors que je pourrais éplucher une liste des destinations fréquentes en...
Neil pencha la tête d'un côté, de l'autre.
Disons, quelques heures.
Autour de la table, les membres de la cellule d'enquête reprirent du poil de la bête. Debout, devant le tableau, Didi aussi.
Neil, ordonna-t-elle, toi et ton équipe, elle désignait Phil et Carol, vous êtes chargés des données GPS. Les autres, vous me dressez une liste de noms.
Elle consulta sa montre. Il était 10 heures du soir, ce qui était parfait pour la mission qu'elle s'était personnellement assignée, retourner voir la directrice du Tonic, Jocelyne Issière. Une femme dans la bonne tranche d'âge, qui n'était pas un modèle de franchise, qui connaissait tous les protagonistes de l'affaire, avait accès au système de surveillance de la boîte et devait, en ce moment même, arpenter sa piste de danse. Pour enquêter sur les femmes de l'entourage de Golding, rien de tel que de commencer par le haut du tableau.
« Je vous donne 2 heures », annonça-t-elle. « Le premier qui me trouve l'adresse mènera l'assaut. On y va dès qu'on a le feu vert. Si Flora a été enlevée par vengeance, Dieu sait combien de temps il leur reste, à elle et aux autres victimes.